franceinter.fr.
7h43, Alain Baraton, Alain Bougrain du Bourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mignons tous les deux avec vos masques. Il faut dire que c'est le carnaval à Venise.
On célèbre ce carnaval.
Mais c'est vraiment, parce que les auditeurs ne me croient pas, mais vous êtes déguisés.
Façon cajofole, un truc en plume.
C'est parce que c'est précisément le carnaval de Venise que vous avez choisi de nous parler de ces jardins. Des jardins réputés.
Eh oui, les jardins italiens qui sont réputés de par le monde, excepté peut-être à Venise, et c'est regrettable. Si le cœur historique de Venise est bien formé de 118 petites îles unies par quelques 400 ponts, si la ville est réputée pour son architecture et la beauté de ses canaux, Venise, eh bien oui, c'est aussi une multitude de jardins. Il y a, on le sait peu, davantage de jardins à Venise que dans la plupart des capitales européennes.
On le sait peu, oui, parce qu'il faut les trouver.
Eh bien oui, et c'est Alessandro Ignazio Marcello qui a le mieux expliquer comment visiter Venise. Notre homme est écrivain, mathématicien, mais aussi et surtout compositeur de musique baroque. Il est né à Venise en 1684 et il y est mort en 1750. Autant vous dire qu'il connaît bien sa ville, c'est une évidence. Et il écrit.
Alors, vous voulez que je le dise en italien ?
S'il vous plaît.
Per conoscere la flora di Venezia bisogna camminare col naso in su. Le piante sembrano costrette a vivere come i colombi.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ça veut dire que pour découvrir les jardins de Venise, il faut être une colombe, grosso modo.
Eh bien, c'est joli, montre effectivement très traduit. Alors beaucoup de palais et de maisons bourgeoises possèdent des jardins souvent modestes. Il faut abandonner gondoles et vaporetto pour les découvrir. Et encore en admettant qu'ils ne soient protégés ni par des grilles, ni par des murs.
Et il existe des jardins privés et des jardins partagés.
Et oui, à Venise, il est possible de cultiver à plusieurs un potager. L'association Spiazzi Verdi propose à des amateurs de participer à des activités de jardinage sur l'île de la Guidetcia. C'est juste à côté. Je vous laisser prononcer tous les mots italiens, ce sera beaucoup mieux. Dans un centre de soins pour malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Les patients ne jardinent pas, mais peuvent profiter de ce jardin entretenu uniquement avec des produits naturels.
Et il existe aussi des jardins publics.
Oui, comme le parc Savorgnan qui a été créé pour le palais du même nom au XVIIIe siècle. Il est orné de statues et planté d'arbres magnifiques, comme les micocouliers qui atteignent ici des hauteurs respectables. Je dis parce que c'est curieux de voir des grands arbres, justement, à Venise.
Et est-ce qu'il y a des bancs, vous qui mettez les bancs dans les jardins ?
Bien sûr qu'il y a des bancs, il y a aussi des vases dans ce lieu.
Alors, le parc de la Villa Grodje, c'est comme Venise, c'est un lieu très romantique.
Il date du 19e siècle et est agrémenté de ruines. Avantage dans cette ville fréquentée chaque année par près de 20 millions de touristes. L'endroit est peu visité, il est donc paisible et reposant.
Et il y a les Giardini Papadopoli. Alors ça, c'est le plus célèbre.
Voilà, tout à fait. Ils occupent une surface de presque 9000 m² et furent créés au début du 19e siècle. Ils étaient réputés pour leur collection botanique, mais aussi, Alain, pour les volières qui abritaient de nombreux perroquets et faisans. Les jardins sont...
C'est vrai qu'on s'en met un peu à des perroquets.
Non, mais je le dis,
c'est pas pour dire. Il y a François-Régis Gaudry qui lui aussi vient d'être déguisé. C'est joli, avec des plumes rouges.
Là on est vraiment...
Tandis que vous, Alain Baraton, c'est des plumes vertes.
Bah oui, c'est
et Alain Bougrain-Dubourg, des plumes noires.
C'est sûr.
C'est plus sobre pour le matin, vous avez raison, c'est mieux.
Alors retournons, si vous le permettez, dans ces fameux jardins qui sont modifiés en 1863. Eh bien, saviez-vous, Patricia, que c'est un Français, Marc Guignon, qui est chargé de mener à bien le projet.
Non, je savais pas.
Grâce à lui, il est maintenant possible d'y organiser tous les deux ans la fameuse exposition internationale d'art contemporain de la Biennale de Venise.
Et une statue dans le jardin représente Giuseppe Zoli. Mais qui est-il ?
Oui, l'histoire mérite vraiment d'être racontée. Cet homme, Giuseppe Zoli, était un soldat qui était proche du général Garibaldi, le futur père de la nation. Garibaldi est par définition la gloire de Venise et il est juste que sa statue accueille les visiteurs à l'entrée de ce jardin. Il s'avère que notre homme, Giuseppe Zoli, paraît-il, agressait en 1921 tous ceux qui s'approchaient trop de la statue du général. Il souhaitait le protéger. 1921, soit 40 ans après sa mort. En un mot, le fantôme de Giuseppe Zoli.
Non mais attendez, vous êtes sûr que c'est vrai ?
Non mais c'est une légende qui circule bien évidemment. Le fantôme de Giuseppe Zoli, donc, agresser celles et ceux qui voulaient s'approcher trop près de la statue de Garibaldi. Alors qu'ont fait les autorités ? Elles ont tout simplement installé à côté de la statue de Garibaldi la statue de Giuseppe Zoli. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais depuis, le fantôme a disparu.
On est obligé de vous croire ?
Je vous assure que c'est vraiment une légende que je n'ai rien inventée.
Est-ce que vous nous diriez en passant que ce que vous pensez des potagers en kit, qui permettent de cultiver des petits potagers surélevés ? C'est Sébastien qui voudrait le savoir.
Moi, j'aime bien parce que le potager, c'est une philosophie. Alors quand on pense au potager, on pense au jardin de plein air, bien évidemment. on pense à ces planches superbement dressées, mais il y a également des gens qui vivent en ville ou qui ont des petits espaces et surtout qui ont des problèmes de santé. Il y a une quantité de personnes, âgées ou pas d'ailleurs, qui souffrent de problèmes de dos. Il y a des personnes qui sont sur des fauteuils roulants. Eh bien, le fait d'avoir des potagers justement surélevés leur permet enfin de produire à hauteur. Alors, c'est pas des grandes productions, bien évidemment, mais c'est un petit moment de bonheur, un petit moment de partage. Et je crois que cette idée est intéressante. Ces potagers sont vendus en kit, ils sont en bois le plus souvent. Il suffit simplement de remplir par du terreau. Et c'est vrai que finalement, eh bien, c'est une belle invention, bien profitable.
Il est devenu courant de broyer le bois et d'utiliser le mulch.
Le mulch, oui.
Le mulch,
oui,
le mulch en paillage.
Oui. Enfin, le produit du broyage du bois.
D'accord. Est-ce que c'est vraiment bon pour la terre?
Eh ben, moi, je me pose beaucoup de questions. Je me pose énormément de questions.
Vous n'êtes pas là pour vous poser des questions, vous êtes là pour donner des réponses.
Eh ben, je vais donc maintenant vous donner la réponse. J'explique. Ah. Quand vous broyez du bois et que vous mettez, par exemple, ces copeaux sur une allée, effectivement, ça vous permet d'éviter de désherber. Ça vous permet même de marcher de manière confortable. On peut même marcher pieds nus. C'est pas désagréable. On peut également utiliser le mulch dans les massifs pour limiter l'évaporation de l'eau et l'apparition des mauvaises herbes. Mais, est-il vraiment sain? À partir d'un arbre ou d'une branche qui a été coupée et qui est peut-être porteuse de maladies ou de champignons, eh bien de broyer, j'allais dire, son bois et de le répartir partout. Je ne suis pas convaincu. C'est un petit peu comme si dans les hôpitaux on récupérait les parties des malades et qu'on les répartissait dans les... Bah oui, bah c'est pareil. Hein, je vous rappelle que les végétaux sont des êtres vivants.
Merci pour la comparaison. Oui,
c'est pas très élégant, j'en conviens. Mais c'est le même esprit, ce qui compte c'est l'esprit. Donc je me pose des questions, je pense que ce n'est pas très bon pour l'environnement et que c'est peut-être l'une des causes qui fait que certaines maladies dites cryptogamiques progressent autant, car je vous rappelle que le broyage n'élimine pas les champignons.
Quel est d'après vous l'arbuste qui résiste le mieux au manque d'eau, vous demande Audrey.
Il y en a plein, arbousier, l'agnus, yucca, olivier, la vigne, le genêt, la santoline.
Attendez, redites-moi parce que j'ai rien compris là, plus doucement.
Il y a quantité de végétaux, comme la lavande qui a des besoins qui sont faibles.
Non mais avant vous en aviez donné
l'arbousier. Et les agnus, le yucca, l'olivier, la vigne, le genêt, la santoline, mais, ces plantes sont capables de rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans arrosage, mais adultes, il faut que les racines aient eu le temps de partir en profondeur. Ce qui veut dire que ne croyez pas qu'il suffit d'installer un de ces végétaux dans la terre et de ne pas du tout l'arroser pour qu'ils survivent. Il faut vraiment attendre qu'ils soient adultes, et adultes, oui, ils peuvent se passer d'eau.
Est-ce que vous passez la main à la Mougraine du Bourg? Vous avez encore des choses à nous
dire? Juste une promenade en 2 secondes, 1001 orchidées, c'est aux grandes serres du Jardin des Plantes à Paris, et c'est jusqu'au 27 février.
Je confirme.
Alors, vous confirmez Alain Bougrain-Dubourg?